Jean Richepin, les enquêtes de l'Adalbert Gonf, sur la mer. Notre vieil ami Adalbert Gonf, le subtil et puissant observateur, n'a pas cru que la mer fût indigne de son étude, et il a consenti à la coucher, elle aussi, sur ses calepins, documents araratoires, côté impression artistique. Car il n'est pas moins bon peintre et humoriste qu'avisé psychologue. Témoin cet extrait qu'a bien voulu nous confier de son journal de bord. 2h30, nous embarquons sur la jeune Azéline, yacht de pêche, qui va faire un tour au large. Une pancarte annonce qu'il s'agit d'une promenade en mer, au prix de 1,50 € par personne. Justement, la bise est forte et les vagues sont grosses. 30 sous l'émotion. C'est pour rien. On en aura pour son argent. Aussi a-t-il foule. Le bateau ne devrait prendre que 35 passagers. Nous sommes environ 150. Le pont est trop petit. Et pour débarrasser un peu le plancher, où il n'y a plus de place pour les manœuvres, on fait descendre une quarantaine de malheureux dans la chambre à poissons, où ils s'étouffent complètement encaqués. Quelques-uns, le cœur tourné déjà par la chaleur, commencent à borborigmer d'une façon inquiétante. 3 heures. Nous dérapons. Le bateau enfile en se balançant le chenal. 500 badauds font la haie sur le quai pour nous voir partir. Le spectacle doit être imposant. Nous prenons des pauses. Je sens que je ressemble à Christophe Colomb allant à la découverte du Nouveau Monde. Quand nous arrivons au bout du canal, on nous applaudit du haut de la jetée. C'est superbe. 3h05. Ah, voici la première lame. Au moment où nous déposons Basson à l'abri du mot. On se balançait jusqu'à présent. Maintenant, on bondit. Le mot est d'une exactitude, commissaire Briscard. Quand la vague surgit, on ne la fend pas, on la chevauche, on saute par-dessus, et on la voit s'enfuir par derrière, écumeuse. En se sauvant, elle vous crache au visage. La mer postillonne. 3h07. Première fusée à ciel ouvert. Les borborigmes de la cale et les éruptions du pont en avaient déjà les avant-coureurs. Des mouchoirs avaient tamponné des bouches. Quelques-uns s'étaient inclinés comme de graves réflexions. Leur nombre avait augmenté peu à peu. Des faces pâles, regardant au loin, regardaient au loin avec mélancolie. Mais, en somme, on tenait bon. Sous les lorgnettes de la jetée, on se raidissait. Une femme a donné le signal de la déroute. Un géros a traversé l'air. Le feu d'artifice du mal de mer va commencer. 3h29. Le mal de mer a fait sa brusque et triomphante apparition. Il y a là quelques minutes grandioses, tumultuaires, où l'analyse des détails est impossible. On n'en saurait prendre qu'une vue d'ensemble. On y prend aussi une prise d'ensemble. Les odeurs sont mêlées, confondues, troubles, en une cacophonie de récits relents, d'où le nez le plus expert ne distingue rien de précis. L'orchestre des sensations olfactives en est au moment chaotique, en quelque sorte des accords des instruments. 4h12. Enfin, j'ai pu me recueillir et documenter sérieusement pendant un bon quart d'heure, avec tout le soin que comporte mon désir de fixer des impressions définitives sur la mer. Notez d'abord ce gros monsieur qui, au départ, avait un air héroïque, presque saucy Christophe Colomb que moi-même. Il a commencé par retirer sa main de son gilet, où elle lui donnait une attitude de Christophe Colomb, comme qui dirait napoléonien, et de cette main, moins ambitieuse, il s'est doucement frotté l'estomac, puis essuyé le front sur lequel son chapeau ôté, le vent échevelait 17 mètres épars. Le tour de sa bouche était un jaune foncé. Il a tourné ensuite au vert pâle. En joue feu, le gros monsieur est en train de devenir moins gros. Notez aussi le non moins intéressant, quoique très différent, processus de cette petite dame, soudainement fulgurée en pleine limonerie espiègle. Son flacon de sel s'est envolé en obus dans la gerbe foudroyante de son lâcher-tout. 4h11, c'est la débâcle universelle. De nouveau, je dois remonter à la mireur réticuleuse analyse. Couleur et odeur sont ourvariques et kaléidoscopiques. La synthèse s'impose. Mes narines perçoivent un Niagara de parfums violents. Mes yeux emmagasinent un arc-en-ciel liquide, cassé en morceaux. Je suis impuissant à rendre ce que j'en éprouve. On rend trop et trop à la fois. Je ne suis pas bien sûr que je ne me rends pas moi-même. 4h30. Non, je ne rends pas. C'est mon imagination seule qui travaillait. Je la réfrène. Il s'agit d'observer. Je fais appel à mes facultés raisonnables. Je veux analyser. J'analyserai. Je suis subtil et puissant observateur, Adolbert Gandalf. 4h37. C'est par mon nez, d'abord, que le calme est revenu à ma raison. C'est par lui que s'est faite la première classification dans le tohu-bohu des odeurs. J'ai nettement discerné que tous les instruments étaient enfin d'accord et que l'orchestre magistral me jouait la symphonie du mal de mer dans un ensemble où chaque odeur donnait sa note. Il y avait des entrées, des reprises, du contrepoint fleuri, le tout parfaitement réductible à la tradition verbale, en âcre, en doux, en amer, en brûlant, selon les sauces, la bile ou les boissons digurgitées. Mais ce qui dominait et faisait la caractéristique du morceau, comme le leitmotiv de toute fugue, c'est un mélange d'air et de fade. Il passe, repasse, monte par bouffée de l'escalier qui mène à la chambre. Il traîne le long des bordages. Il serpente à travers les cordages. Il plane. Il trille. S'irrite. Il s'incendie. Il flambe. Il flambe la zone. Avec au commissaire des lèvres une souvenance du cognac qui pique un point d'or. Un point d'orgue dans la buée rosâtre. Mes vocables, instantanément, j'ai dit. 4h52. Maintenant, pour mes yeux aussi, la symphonie est sévère et authentique. C'est la symphonie de couleurs, combien facile à transporter dans le pictural lexique. Le dernier des rapins y suffirait. L'orgueil de mon écriture a presque honte à s'y ravaler. Il n'est pas besoin de gêne pour enregistrer et exprimer ses nuances. Ocre de la viande bouillie, carmin des rôtis saignants, cendre vermillon, lac de gomme-mute du saumon, camélia de la langouste, vert émeraude, vert véronaise, centre-verte, tous les verts des légumes, jaune indien du cidre, jaune d'or des cœurs, des œufs, la pulpe nacrée des fruits, sombre bitume du café, spongieuse blafardeur du pain, et enfin, passé comme un jus dès l'avant, le tout et lui donnant sa tonalité d'ensemble et son fondu, le violet écumeux et lamentable des vinasses. 5 heures. Nous rentrons. Maintenant, en vue du môle, ce n'est plus qu'une continue averse de pile blême, sans intérêt pour l'observateur. Puis dans le chenal, c'est le calme, se retardant peu à peu. Les dernières fusées, vagues, s'éteignent d'une à une. Les odeurs s'éteignent aussi. Les couleurs, de même, sous les seaux d'eau balayant le pont, qui perd son magique aspect de palette encombrée de racines arc-en-cielesques. 5h19. Je débarque. Je relis mes notes d'un œil sévère et impartial. Elle me semble assez substantielle. Je ne regrette pas d'avoir soumis à mon étude ce vieux sujet si banal, la mer. Je crois que je l'ai renouvelé par mes subtiles et puissantes observations. Il faudra malheureusement que je renouvelle aussi mon costume. Il est rempli de mes observations, du haut en bas. J'en ai même, je ne sais comment cela se fait, jusqu'entre ma peau et ma chemise. Mais qu'importe, la science exige des sacrifices et de l'abnégation. On est observateur ou on ne l'est pas. Et enfin, ce qui me console de tout, c'est que désormais, la littérature française possède quelque chose de définitif sur la mer.